Je vous rappelle que nous sommes partis de la question de la réalité des miracles dans les évangiles. Et nous avons d'abord constaté à quel point ces phénomènes suscitent chez beaucoup l'incrédulité, et même le rejet, la moquerie. Et nous avons vu pourtant que la science et l'approche rationnelle de la réalité, que seule l'approche rationnelle de la science et de la réalité par la science était admise. Et que cette approche traçait une sorte de ligne de démarcation de frontière entre ce qui est possible et ce qui est impossible. Et nous poursuivons l'examen de cette question, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est impossible? C'est une question fondamentale. Et pour y répondre, je n'ai pas choisi de me réfugier dans le dogme en disant c'est comme ça, on nous enseigne, l'Église dit que, etc., le Christ, Dieu, homme. Non, je me suis placé sur le simple plan des faits et de la science. Et nous avons constaté, après ce vaste tour d'horizon auquel nous avons participé, que la vision des guérisons inexplicables, celle des témoignages des saints et des mystiques, les recherches des parapsychologues, les expériences de mort imminente et les découvertes tout à fait étonnantes de la physique quantique, nous montrent un autre visage de la réalité. Alors, j'ai fait un petit schéma ici, je ne sais pas si vous le voyez de loin, mais bon, je vais faire des gestes, vous comprendrez. Il y a en fait trois niveaux dans la réalité. Le niveau facile, évident, c'est celui-ci, c'est le niveau macro, des gros objets, la table, la chaise, le bic, l'éléphant, encore plus gros. Le deuxième niveau de la réalité, ça c'est le monde des sens, si vous voulez, c'est le 2. Le premier niveau de la réalité, c'est ce qui compose tous ces objets visibles, qui sont les particules, microparticules, etc., dont on a parlé, et c'est le monde qu'explore la physique quantique. Et nous avons déjà vu que la physique quantique nous dit beaucoup de choses, mais elle pose aussi énormément de questions, et finalement, on n'y comprend pas grand-chose, cette physique quantique. Mais elle débouche sur une autre vision du réel, qui est, je dirais, le troisième niveau du réel, c'est la globalité du réel, qui dépasse à la fois le monde des sens, le monde de la physique quantique, et là, nous touchons à quelque chose de plus grand, qui est, derrière la physique, la métaphysique. Mais nous y sommes amenés par la science. Nous avons vu que les phénomènes de guérison inexplicables, les phénomènes mystiques, les phénomènes qu'on appelle le psy, de la parapsychologie, la physique quantique nous amène à cette grande question que j'ai évoquée à plusieurs reprises, qu'est-ce que le réel? Qu'est-ce que la réalité? Et nous avons vu que ce qui se dégage, en dehors de toute métaphysique, de tout évangile, de toute approche religieuse, mystique, spirituelle, etc., c'est une vision holistique du réel. Quelque chose de global, quelque chose qui nous dépasse, qui est perçu par certains, on parle de hologramme, de grand hologramme, ou alors le physicien David Bohm, je ne sais pas si vous connaissez ce nom, David Bohm, c'est un très grand physicien, qui parle d'un ordre impliqué. On dirait que c'est impie, j'ai oublié le L. C'est impliqué avec un accent. Voilà. Il parle de l'ordre implié ou impliqué, c'est synonyme. C'est-à-dire qu'il y a une réalité sous-jacente à notre réalité à la fois quotidienne et de la physique que la physique quantique nous déclare, une réalité qui dépasse nos sens. quelque chose que, par exemple, les orientaux parlent du manteau d'Indra. On nous en a parlé l'autre jour. Le manteau d'Indra, c'est un vaste filet qui englobe toute la réalité. On parle aussi de matrice, c'est une gigantesque matrice dont le réel sortirait. C'est quelque chose qui, à la fois, est au-dessus ou en dessous, qui est partout. Donc, qui nous dépasse complètement. Et justement, c'est toujours cette question, cette quête que nous avons. Qu'est-ce que la réalité? Eh bien, la réalité, on ne pourra jamais la définir parce qu'elle nous dépasse, mais nous en avons des petits aperçus à travers ces phénomènes et à travers les logiques scientifiques actuelles en particulier. Et tout ça nous amène à la question de la conscience, qui est fondamentale, je terminais là-dessus. Alors, vous avez, rappelez-vous que les neuroscientifiques matérialistes pensent que la conscience est identifiée à l'activité du cerveau, parce que le cerveau produirait la conscience. Or, ce n'est plus du tout la vision actuelle des neuroscientifiques, je dirais, qui sont plus avancés et qui sont ouverts aux découvertes actuelles de la physique quantique. Ils perçoivent notre cerveau comme un émetteur-récepteur. Et qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit à la fois des informations qui viennent des autres personnes, comme on l'a vu par exemple dans les phénomènes de télépathie, de précognition, etc. Donc c'est à la fois horizontal et c'est vertical. Il reçoit le cerveau, parce que c'est quand même l'instrument par lequel ça passe, des informations qui se situent dans une conscience globale, une conscience qui nous dépasse, une conscience qui est une... Je ne dirais pas que c'est l'inconscient collectif de Jung, quoique, mais c'est quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui nous dépasse complètement, mais que nous percevons. Il y a donc des percées qui se font dans les deux sens, nous recevons et nous émettons. Et ces informations sont envoyées dans la conscience globale auxquelles tous les autres êtres humains ont accès, puisque ça va dans les deux sens. Voilà donc une nouvelle vision que le professeur Charbonnier appelle, le docteur Charbonnier plutôt, la conscience extra-neuronale, la conscience hors du cerveau. Parce qu'on a deux types de conscience, la conscience rationnelle, qui nous permet d'agir comme nous le faisons dans le monde de tous les jours, et la conscience extra-neuronale, qui ne dépend pas de notre cerveau, mais elle transite par notre cerveau. En réalité, notre cerveau est un émetteur-récepteur. C'est un peu comme un poste de radio, si vous voulez. La musique, comme les enfants pensent, bien, vous savez que les enfants, quand ils voient la première fois la télévision, vont voir derrière pour voir où se situe la personne qui parle. Eh bien non, la personne qui parle, elle est dans les ondes. Tout est transmis par les ondes. Et tout ceci, c'est un monde ondulatoire, comme nous l'avons vu dans la physique quantique. Donc les ondes, ça voyage, ça s'interpénètre, et tout ça est intrigué. Intriqué, pardon. Peut-être on posera la question tout à l'heure. Voilà, donc on arrive à une vision de la réalité qui est vraiment hallucinante, vertigineuse. Mais grâce d'abord aux témoignages dont je vous ai parlé, aux expériences dont je vous ai parlé, et aussi aux progrès et découvertes de la physique actuelle, la mécanique quantique. Alors cette fois-ci, nous abordons un autre niveau, qui est le niveau des miracles du Christ. Et comme vous l'avez bien perçu, tout ça nous amène sur un plateau, les miracles du Christ, puisque ce n'est plus quelque chose, je suppose que, je ne sais pas quelle était votre opinion avant, mais que maintenant vous avez peut-être, j'espère, un peu aussi évolué, si ce n'était déjà le cas avant l'exposé, que les miracles du Christ prennent évidemment place dans ce vaste ensemble qui nous dépasse, avec une nuance supplémentaire. Et là, effectivement, nous allons un peu plus loin, c'est-à-dire que nous ne quittons pas, mais nous dépassons le domaine physique pour entrer dans le domaine métaphysique, religieux, celui de la révélation. Mais nous pouvons maintenant situer les miracles du Christ, qualifiés d'impossibles par beaucoup de gens, dans ce cadre élargi que nous avons découvert ce matin. Alors malheureusement, les miracles du Christ, il y a moyen de les aborder de multiples façons. Il y a énormément d'approches possibles. Ça demanderait une semaine ou deux d'approches si on voulait vraiment emprunter toutes les voies. Et nous ne ferons évidemment qu'effleurer ce mystère. vraiment l'effleurer du bout de l'aile. Mais nous savons que le mystère, ce n'est pas une réalité hermétique qui est cachée, mais c'est une réalité à découvrir, qui se voile et se dévoile. Exactement comme l'amoureux, l'amant dans le physique des quantiques qui apparaît et disparaît. Nous sommes partie prenante, nous sommes dans ce grand mystère de la réalité et de la relation de Dieu et de l'homme. Voilà, c'est la première fois que je prononce le mot de Dieu depuis le début de cet exposé. Parce que notre foi nous dit que le Christ n'est simplement pas un homme, mais il est aussi Dieu. Et j'aborderai, quelles sont les manières d'aborder les miracles. On pourrait parler des différentes sortes de miracles, des différentes approches que chaque évangéliste a du miracle, parce que chaque évangéliste relate les miracles à sa façon. Et il y a une concordance, mais il y a des points spécifiques, notamment chez Saint Jean, qui les aborde de manière très différente des autres. Il est beaucoup plus sélectif. Nous pourrions parler aussi de l'attitude du Christ face à ceux qui lui demandent d'être guéri. Et nous pourrions aussi parler de la transmission de ce pouvoir, parce que, rappelez-vous, il dit, tout ce que j'ai fait, vous le ferez aussi, et vous ferez même des œuvres plus grandes que la mienne. Et on le voit d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre guérit plusieurs personnes, c'est décrit dans les Actes, et l'apôtre Paul aussi. Alors, moi, je me contenterai, si on peut dire, de trois approches qui me paraissent riches de sens, et je pose, pour les poser, trois questions. D'abord, qu'est-ce que nous voyons à l'œuvre dans les miracles du Christ? Deuxièmement, à quoi le Christ lui-même relie-t-il les miracles? Avec quoi les met-il en relation? Et enfin, qu'est-ce que réalise déjà, qu'est-ce que nous apprennent les miracles du Christ, et en particulier le miracle des miracles, la résurrection du Christ, résurrection corporelle. Première approche, les miracles sont portés par le souffle de l'Esprit-Saint et la puissance du Père. Les miracles du Christ ne sont pas des phénomènes de parapsychologie, comme on a rencontré, ni des guérisons spontanées, ni de simples prodiges de la vie mystique, ni des manifestations étranges des propriétés de la matière. Ils sont une émanation, n'ayons pas peur de le dire clairement, de la puissance divine. La puissance de l'Esprit-Saint repose sur le Christ. Il le dit au début de son ministère, la puissance de l'Esprit est sur moi. Et Luc dit, la puissance du Seigneur se manifestait par les guérisons. Toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui qui les guérissait tous. On ne peut pas oublier que si le Christ devient homme, il reste Dieu. Il n'abandonne pas sa divinité comme une peau de serpent à l'époque de la mue. Il reste une personne divine. Mais il entre dans une kénose, c'est-à-dire un abandon, pour devenir porteur de notre chair. Et donc il entre dans nos limitations, tout en restant totalement uni au Père et à l'Esprit-Saint. Totalement. Et le Christ n'agit jamais seul. Il est toujours intimement uni au Père et à l'Esprit, tout le temps. Et donc, la puissance du Christ, la miséricorde du Christ, sa tendresse, sa force créatrice qui émane de lui, eh bien tout cela manifeste la force, la puissance de la divine Trinité qui agit à travers le Verbe. Et dès lors, quand un malade rencontre le Christ, il ne rencontre pas seulement Jésus de Nazareth dans sa limitation humaine, mais il rencontre la divinité entière. Toute la divine Trinité est présente dans le Christ. Et toute la force créatrice de la divine Trinité irrigue le Verbe incarné. Par exemple, le Christ le rappellera souvent, surtout à propos du Père. Il dira que les œuvres qu'il accomplit sont les œuvres du Père. Il dira, je ne parle pas de moi-même, je n'agis pas par moi-même, mais j'accomplis les œuvres de mon Père. Il le dira à de très nombreuses reprises, surtout dans l'Évangile de Jean. S'il est plus discret sur son union avec l'Esprit-Saint, il dit, comme je vous l'ai rappelé au début de son ministère, L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, c'est le terme même, Messie, oint, Christ, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Si les allusions à l'Esprit Saint sont rares dans sa bouche, n'oublions pas quand même que le Verbe s'incarne par l'Esprit Saint en Marie, par la puissance de l'Esprit, que l'Esprit pousse le Christ au désert au début de sa vie publique, c'est mis textuellement dans l'Évangile, qu'il opère les miracles par la puissance de l'Esprit, qu'il souffle sur ses apôtres après sa résurrection en disant « Recevez l'Esprit Saint ». C'est pourquoi Grégoire Palamas a pu dire, et toute l'Église orthodoxe a intégré cet enseignement extraordinaire dans sa sensibilité théologique, qu'à travers le Christ, qu'à travers ses miracles, à travers son engagement, ce sont réellement les énergies divines incréées qui pénètrent dans la matière, dans les corps, pour les guérir, pour les magnifier, pour les transfigurer. Et les moines du Mont Athos, à l'époque de Grégoire Palamas, ont écrit « Si le corps doit prendre part avec l'âme au bien ineffable du siècle futur, il est certain que le corps doit y participer dès maintenant. » C'est ce que nous voyons à travers les miracles du Christ. C'est que le corps humain, malade, mais aussi l'âme humaine, reçoit ces énergies divines. Deuxième manière d'aborder les choses, les miracles du Christ, on pourrait dire, bon, d'un côté il y a l'enseignement du Christ, de l'autre côté il y a ses miracles. Et j'accepte très bien son enseignement, c'est extraordinaire, c'est un maître spirituel, et beaucoup de gens d'ailleurs le font. Mais il dissocie l'enseignement des miracles. Or, c'est totalement indissociable. Les miracles sont un enseignement, nous allons le rappeler dans quelques instants. Et quand le Christ opère un miracle, une guérison, un exorcisme, etc., c'est toujours avec des paroles d'enseignement. Je ne sais pas si ça vous a frappé, il ne passe pas là en disant, sans parler, sans, simplement en guérissant, en faisant un geste, il guérit et il parle, toujours. Et de quoi parle-t-il essentiellement? Eh bien, de l'avènement du royaume. On ne peut séparer les miracles du Christ de l'avènement du royaume, et lui-même le dit, il le rappelle, rappelez-vous, aux envoyés de Jean-Baptiste qui est dans sa prison et qui envoie ses envoyés au Christ en disant « Mais qui es-tu finalement ?» Et il répond « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et qu'est-ce que c'est, ces bonnes nouvelles? C'est la nouvelle de l'avènement du royaume. Alors, question suivante, qu'est-ce que le royaume? Voilà, Monique m'a précédé. Qu'est-ce que le royaume? Eh bien, je vais peut-être vous décevoir, mais on ne peut pas le définir clairement. À nouveau, nous sommes en plein mystère. Qu'est-ce que le royaume? On en a des préconitions, des prémonitions, des petites touches. Le royaume, comme la divine trinité et comme beaucoup de choses dans la vie spirituelle, est une réalité indicible, apophatique, dont on peut très difficilement parler. Mais ce qu'on peut en dire de manière très résumée, et tout l'enseignement des pères de l'Église tourne autour de ça, c'est que le royaume, c'est la chambre des noces. C'est le lieu de la rencontre entre l'homme et Dieu. Et ça se manifeste de multiples manières. Ce n'est donc pas un lieu désincarné, quelque part dans les nuages, c'est un lieu de rencontre concret, charnel. Ce serait un lieu désincarné si notre tradition chrétienne niait la valeur de la chair et de la matière. Or, c'est exactement le contraire. Nous voyons que Dieu s'incarne dans notre corps, dans notre chair, dans notre matière et la transforme. Et d'abord, la guérit à travers les miracles. Et donc, on pourrait dire que le royaume est un lieu en dehors de notre espace-temps. Ça rejoint un peu ce que nous voyons tout à l'heure avec cette réalité qui nous échappe. Mais ce n'est pas un lieu abstrait, c'est un lieu concret où nos personnes, corps, âme, esprit, rencontrent les personnes divines. Et les miracles réalisent déjà ce début d'union avec les personnes divines. Le miracle n'est pas un signe abstrait, mais un signe extrêmement concret, une guérison. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les miracles font entrer dans le corps humain, dans la chair humaine, dans la matière, les énergies divines. Exactement comme dans les sacrements. Qu'est-ce qui se passe dans les sacrements? Eh bien, les énergies divines investissent le pain, le vin, l'huile, l'eau du baptême, circulent et se communiquent à l'être humain qui entre en contact avec le sacrement. Et pourquoi? Eh bien, pour guérir, pour élever, pour transformer, pour transfigurer. Et on pourrait encore parler de cette réalité d'une autre manière qui est particulière à l'âme juive, je dirais. Vous savez que les juifs, vous savez ou ne savez pas, sont très sensibles à une réalité qui est la création. Il y a donc toute cette Genèse que nous connaissons. Et il y a ici, non pas une création, mais une nouvelle création par le Christ. Un renouvellement de la création. Et c'est comme ça que saint Paul, par exemple, parle du Christ. Rappelez-vous, Paul parle de nouvel Adam, qui est le Christ. L'homme nouveau, qui est l'homme qui est touché par la grâce, c'est-à-dire nous. La nouvelle création. Et c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Comme l'écrivait un auteur dans un cahier évangile consacré au miracle, le fondement de la foi pour la Bible et la liturgie juive, ce n'est pas le miracle, c'est la création. Et Vladimir Lossky écrit « L'univers créé apparaît comme une réalité dynamique qui tend vers une plénitude. » Et cette plénitude, elle commence à se réaliser déjà par l'enseignement, mais aussi par les miracles du Christ et par les sacrements qui en sont la prolongation. Donc les miracles sont un signe de renouvellement, de renaissance, naissance de l'homme nouveau qui est guéri et restauré par le Christ dans sa beauté originelle. Et donc les miracles ne se situent pas simplement à un niveau corporel ou psychique, comme on pourrait le penser. Il y a un aveugle qui vient le trouver, il retrouve la vue, il recouvre la vue et il s'en va. Il y a bien plus que ça dans le miracle, il y a un retournement ontologique qui se produit. On le voit par exemple très bien dans cet épisode de la guérison du paralytique, qu'on trouve dans l'évangile de Marc notamment, où le Christ, au grand étonnement, vous rappelez cette scène assez curieuse, le Christ est dans une maison, il enseigne, et puis il y a le plafond qui s'agite, il y a des morceaux de plâtre qui tombent, et on se rend compte que il y a des gens au-dessus, sur la toiture, qui sont en train de descendre un paralysé devant le Christ. Déjà cette scène, c'est parce qu'on y est habitué, mais ça vaut le coup d'y penser, je trouve. Et donc le paralytique arrive devant Jésus, et qu'est-ce qu'il lui dit Jésus ? Je te guéris ? Pas du tout. Je te remets les péchés, tes péchés. Ce qui choque l'assistance en disant, mais on vient, il y a méprise là, on vient pour qui ? On s'est démené pour amener ce paralytique, vous imaginez l'expédition, l'ouverture du toit, etc. On espère qu'il va le guérir et dit, je te remets les péchés. Mais ce n'est pas ça qu'on lui demande. Et après, le Christ dira, pour que vous voyiez que la puissance passe à travers moi et qu'elle vient du Père, je te le dis, lève-toi et marche. Et donc, il est guéri, non seulement sur le plan physique et psychique, mais sur le plan ontologique. Puisque le péché, c'est la rupture ontologique avec Dieu. C'est la séparation avec Dieu. Il n'y a qu'un péché, c'est celui de la séparation. Et donc cette guérison qui se passe sur le plan ontologique est totale. Elle n'est pas limitée. Elle concerne l'homme tout entier dans son corps, son âme et son esprit. C'est pourquoi aussi certains ont appelé le Christ le germe de vie. Il se qualifie d'ailleurs lui-même de semeur de la surabondance dans sa belle parabole du semeur. Donc le Christ est un germe de vie qui plante dans notre terre un germe, une graine qui doit grandir, se développer. Et j'ai été très touché de voir que les anges, quand ils apportent leur message à Gita Malach et à ses compagnons dans les dialogues avec l'ange, qualifie le verbe de germe. Voici ce qu'ils disent. Seul, ou de grain aussi. Seul le grain est éternel. Il est semé, il pousse. Il porte de nouveau du grain. L'essentiel, c'est le grain. souche éternelle. La parole du vœu est grain qui est semé dans le ciel, qui porte ses fruits et qui retombe sur toi, multiplié. C'est la foi semée en Dieu. Lui seul, en majuscule, lui seul, peut te donner des germes, le Seigneur des germes. C'est pour cette raison aussi que la foi du malade ou de ses proches est fondamentale dans le processus de guérison. Parce que, imaginons qu'un miracle soit imposé de l'extérieur, sans que personne ne demande rien au Christ, ce serait certainement un tour de passe-passe extraordinaire, mais qui négligerait une chose fondamentale, c'est le consentement, la participation de l'homme, la synergie, qui est vraiment fondamentale. C'est-à-dire qu'il y aurait viol, par le Christ, de la liberté humaine. Et nous voyons que si la personne n'est pas animée par une foi, c'est-à-dire un élan, vous savez, souvent on dit la foi, je crois, et on n'aime pas ce terme de croire qui fait penser que la foi, finalement, c'est un phénomène mental, intellectuel. Ben non, la foi, c'est un élan, c'est quelque chose qui jaillit, qui met en relation, activement. Eh bien, si la personne ne ressent pas cet élan qui le porte vers sa guérison intérieure, alors celle-ci reste superficielle ou ne se produit pas du tout. Les guérisons du Christ sont toujours apportées en synergie avec le malade, tout le temps. Et c'est pourquoi le Christ interroge souvent d'abord la personne qui a sollicité son aide. Il dit « Veux-tu guérir ?» Il dit ça au paralysé qui se trouve, vous rappelez cet épisode, je crois que c'est dans Saint Jean, la piscine de je ne sais plus comment, Bethsaida. Oui, merci. Le Christ le regarde et lui dit, veux-tu guérir? Mais cette question, ça paraît évident, parce qu'il vient de raconter au Christ qu'il est là sur le bord de la piscine, mais comme il est paralysé, il y a toujours un autre qui se jette avant lui dans la piscine quand l'eau se met à bouillonner. Vous savez, on dit, l'ange agitait la piscine et le premier qui s'y trouvait était guéri. Et le pauvre paralysé, il reste là. Et le Christ lui pose cette question curieuse. Veux-tu guérir? Ben oui, évidemment. Mais cette question s'adresse bien plus bien plus en profondeur à l'homme qu'à sa simple paralysie. Veux-tu guérir dans ta profondeur? Et souvent, le Christ dira, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Va, ta foi t'a sauvé. Il y a un épisode qui nous montre à quel point la foi humaine est importante et fondamentale. C'est un épisode où le Christ paraît totalement inactif dans le miracle. Vous vous rappelez cette femme qui l'aborde par derrière et qui touche son manteau. Et le Christ dit « Quelqu'un m'a touché, une puissance est sortie de moi ». Et c'est la foi de la femme qui réalise le miracle, sans intervention consciente du Christ. C'est tout à fait extraordinaire. Ça montre que nous avons le pouvoir, comme le poussin avec le robot tout à l'heure, d'attirer à nous la puissance divine, la force divine, et que le miracle peut se produire en nous par un débordement de notre foi. Ça me rappelle aussi l'anecdote que je vous ai relatée du curé d'Ars, hein, la mère qui fait toucher... la mère qui touche de sa main le curé d'Ars, et le curé ne voulait pas spécialement guérir, il ne s'était pas rendu compte de la situation, et pourtant l'enfant est guéri parce qu'il y a quelque chose qui irrigue le curé d'Ars, et cette chose, ce sont les énergies divines. Et inversement, on verra que le Christ ne peut faire ou ne veut faire aucun miracle si la foi est absente. Rappelez-vous ces épisodes terribles où il parle des gens qui ont vu des miracles et qui sont restés insensibles et qui ne se sont pas convertis. Par exemple, il cite Chorazéin, Bethsaïda, Capharnaüm, toutes des villes qui sont restées insensibles aux miracles du Christ. Malgré tant de miracles, écrit saint Jean, qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Ils n'avaient pas cet élan vital. Et le Christ souffre de cette situation. Très souvent, il déplore le manque de foi qui fait obstacle à la synergie, à la circulation d'énergie entre lui et les hommes. Et moi, Parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Gens de peu de foi, race incrédule, perverse, jusqu'à quand devrais-je vous supporter ? Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que le signe de Jonas. Et le Christ, à un moment donné, de manière très émouvante, je trouve, pleure sur Jérusalem, sur l'incrédulité. « Toi qui tues les prophètes, » dit-il à Jérusalem. Enfin, nous abordons la dernière partie. Je suis ravi de voir que je suis dans les temps. Que réalisent les miracles ? Qu'est-ce qu'ils réalisent fondamentalement ? Rappelons-nous là, que replaçons-nous plutôt dans la perspective de la question que j'ai posée au début de ce travail et qui a servi de fil conducteur à notre recherche. Quelle relation y a-t-il entre l'esprit et la matière ? Nous pouvons répondre que les miracles du Christ et des saints aussi illustrent de façon éclatante que la matière et l'esprit sont intimement liés. Nous l'avons déjà vu, ou pressenti plutôt dans les exemples que je vous donnais, de la physique quantique, de la conscience globale, etc. Ce qui veut dire que, d'une part, l'esprit peut agir sur la matière, et d'autre part, et c'est très important de s'en rendre compte, que la matière est réceptive, qu'elle est perméable à l'action de l'esprit. Nous avons vu dans notre tour d'horizon tout à l'heure que la matière n'est pas inerte, qu'elle est interconnectée, qu'elle est intriquée, qu'elle danse, qu'elle est mouvante, qu'elle est remplie d'énergie. Pourquoi ? Parce que la matière n'est pas faite pour la mort. Elle est faite pour la transformation, pour la vie. Et nous en avons l'illustration magnifique avec le Christ qui entre dans notre matière, dans notre chair humaine, et qui porte cette matière dans la vie divine lors de l'ascension. C'est quand même quelque chose de... Moi, pendant des années, je dois vous dire que je n'étais pas sensible au mystère de l'ascension. Je me disais, ben voilà, et c'est comme le Joseph dont on parlait tout à l'heure, voilà le Christ qui s'envole, sa mission est accomplie. Il nous quitte et puis c'est à nous, avec l'Esprit Saint, de réaliser le reste. Mais il y a l'autre aspect invisible de l'ascension, c'est que le corps humain entre dans la vie divine de manière définitive. C'est-à-dire que cette ascension, cette réalité, symbolise l'union définitive de la matière et de l'esprit, de l'homme et de Dieu. C'est quand même extraordinaire, hein. La matière, donc, n'est pas faite pour la mort, mais pour la vie, pour la transformation. Et c'est ce que nous apprenait déjà tout à l'heure la science et les phénomènes physiques de la vie mystique, les expériences de mort imminente dont on a parlé. Mais cette fois, la révélation chrétienne nous apporte quelque chose en plus. C'est que cette matière que nous portons tous, qui est toute la matière du monde visible, est destinée à autre chose, à une autre vie, à l'union avec la vie divine. Je vais vous citer ici deux textes très beaux d'Olivier Clément qui expriment vraiment beaucoup mieux que moi ce que j'essaye de vous dire. « La matière, écrit-il, dans la pensée des pères de l'Église, est une réalité dynamique et féconde. Elle est la terre destinée à recevoir la semence de l'Esprit. Dieu a créé le monde pour pouvoir s'unir à l'humanité à travers la chair cosmique, devenant chair eucharistique. Ainsi, le monde que nous croyons « naturel », entre guillemets, est en réalité « contre nature ». La sacralité originelle de la chair a été masquée par une immense tragédie. L'humanité, dans sa soif d'absolu usurpée par le relatif, a pétrifié la matière dans l'extériorité et la mort. Et pourtant, la sacralité originelle du monde n'a pas disparu, elle s'est voilée. Rappelez-vous, on parlait tout à l'heure du réel voilé, ça c'est un scientifique qui en parle, Bernard d'Espagna. Et nous rejoignons ici dans la théologie cette même expression qui désigne la même réalité. La réalité est voilée. La sacralité du monde n'a pas disparu, mais elle est voilée. Seul le Christ restaure dans son corps et nous communique dans la profondeur sacramentelle une chair pénétrée par les énergies de l'esprit. En Christ, ce que nous appelons la matière n'impose plus ses limitations. Tout se concentre dans la résurrection corporelle du Christ. Rien n'est plus spirituel que le corps. La résurrection corporelle du Christ n'est pas la réanimation d'un cadavre, mais la transfiguration universelle commencée. Ah, c'est magnifique, si on ne retenait qu'une chose, aujourd'hui je dirais celle-ci. La résurrection du Christ est la transfiguration universelle de la matière, de l'esprit, du psychisme humain qui est commencé et du cosmos en entier. Ou plutôt, dit-il, secrètement réalisé déjà, dans une humanité, une chair, un corps, devenu l'humanité, la chair, le corps même de Dieu. Alors on entend, et je vous le rappelais au début, souvent les chrétiens, certains chrétiens même, mettre en cause la résurrection du Christ, parce que, on connaît comme maintenant le refrain, parce que c'est impossible. Encore la semaine dernière, ou il y a 15 jours, nous étions avec des amis chrétiens, et une amie dit, il y a plein de choses que j'accepte, mais il y a vraiment une chose que j'accepte pas, c'est la résurrection du Christ. J'ai dit, ben écoute, lis Saint Paul là-dessus. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, tout s'effondre, on peut tout à fait changer d'activité. Et le Christ répond à cette pensée, c'est impossible. Le Christ lui-même répond, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est la phrase d'ailleurs, avec une petite variation, que l'ange Gabriel adressait à Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Nous l'avons vu déjà à un modeste niveau, à ancrer dans le réel, découvert autour de ce travail, que les frontières de l'impossible sont avant tout celles de notre propre ignorance, de nos préjugés, de nos propres limitations. Et le nouveau paradigme dont je vous parlais tout à l'heure, qui est apparu au cours du XXe siècle, avec la théorie de la relativité et la physique quantique, nous a ouvert les yeux déjà sur une réalité physique qui dépasse de très loin tout ce que nos sens perçoivent. Et le drame, c'est que souvent, les gens se contentent de la perception sensorielle, en disant, ce qui est possible, c'est que nous percevons, nous expérimentons, nous touchons, nous voyons, nous goûtons, mais tout le reste nous échappe et du coup, on dit, c'est impossible. Et voilà maintenant, écrit Jean Stone, j'ai presque terminé, que nous assistons à une réouverture du monde, non pas par la mystique ou la philosophie, mais par la science elle-même. La science nous indique qu'il paraît y avoir un niveau de réalité situé hors de notre monde, et qui, loin d'être une pure abstraction, peut dans certains cas exercer une influence causale sur notre monde. Il faut admettre que la réalité est et restera voilée, ça on l'a déjà dit. Rien en physique quantique ne parle en faveur du déisme. On ne peut pas passer trop facilement, vous savez, de dire ben, « il y a la physique quantique, donc Dieu existe ». Rappelez-vous les frères Bogdanov, vous voyez ? Les frères Bogdanov, ils disent des bonnes choses, mais ils franchissent parfois rapidement le pas en disant « on peut passer de là à Dieu, c'est la même chose, tout ». Et donc Dieu est bouche-trou, c'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas expliquer, on met Dieu à la place. Mais quand même, il y a une ouverture du réel qui se produit actuellement, grâce à, notamment à la physique quantique, et je reprends ce qu'il dit, rien en physique quantique ne nous parle en faveur du déisme, ne nous incite à penser qu'un Dieu personnel se cacherait derrière le voile qui nous masque la réalité. Mais en balayant les fondements des systèmes de pensée qui avaient pour conséquence l'inutilité des religions, c'est la vision classique antérieure, la physique quantique a ouvert de nouvelles possibilités philosophiques et religieuses. Comme le disaient Sven Ortoli et Jean-Pierre Farabaud dans le Cantique des Cantiques, le deuxième cantique c'est QU bien sûr, une chose est certaine, la situation philosophique et religieuse actuellement n'est plus bouchée comme il y a plusieurs décennies. Tout devient possible. Ce sont des physiciens qui parlent. Oui, les miracles sont possibles. J'espère que nous en sommes convaincus, mais si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas grave, vous le serez peut-être un jour. Oui, de nombreux miracles ont été accomplis par le Christ et jalonnent aussi l'histoire des saints et des disciples du Christ et les autres traditions également. Oui, le Christ est ressuscité. Nous le chantons à Pâques sur tous les tons. Parce que non seulement un tel événement inouï est possible, nous l'avons vu, mais parce qu'il est réellement survenu. Personne ne croyait ça possible. Rappelez-vous l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean qui courent au tombeau parce qu'ils ne croient pas les femmes. Alors les femmes ont encore inventé une drôle d'histoire. On va aller vérifier par nous-mêmes. Ils courent au tombeau et ils sont confrontés à cette réalité du tombeau vide et du linge qui, entre parenthèses, serait probablement le linceul qui est conservé à Turin. À Turin, oui. Ah oui, tout à fait. Oui, je sais. Bon, je peux vous dire deux mots sur ce linceul. Le linceul apparaît dans la littérature, du moins, au 5e siècle. On parle d'un linceul qu'on a retrouvé avec l'image du Christ imprimé devant et derrière. C'est toute la, vous savez, hein, c'est tout le corps du Christ, en tout cas d'un supplicié qui apparaît sur ce linceul. À un moment donné, il y a des invasions de je ne sais plus qui, et ça se passe à Édesse, en Asie mineure. Et l'évêque du lieu, devant les invasions et la peur que ce linceul précieux disparaisse, le fait murer dans les murs de la ville, dans les remparts, où il sera retrouvé quelques siècles plus tard. Je ne sais pas si c'est un parapsychologue, un médium, un saint. Toujours est-il qu'on ouvre les murailles d'Édesse à un endroit précis et qu'on retrouve ce linge. Alors ce linge est emporté par les croisés en 1204 quand ils pillent gentiment Constantinople. Ils ramassent tout ce qu'ils peuvent raflé dans Sainte-Sophie et dans le trésor des empereurs byzantins, et ils emportent ce fameux linge qui apparaît en Occident au XIIIe siècle. Et il est vénéré à ce moment-là comme le linge qui aurait servi à couvrir le Christ dans son tombeau. Le temps passe, le linge passe dans la maison des princes de Savoie, et puis à un moment donné, vers les années 80, le Vatican demande que ce fameux linceul soit donné à l'Église, puisque c'est un objet quand même de culte ou de quelque chose de très intrigant. Et le Vatican va désigner un collège de 72 ou 78 experts, très nombreux. Et je vous ai rappelé tout à l'heure à propos de Lourdes la grande réticence de l'Église à admettre des phénomènes comme ça qui seraient à la limite du parapsychologique, est-ce que c'est un miracle, est-ce que c'est une supercherie. Et donc, ces experts vont travailler et vont rendre des conclusions qui vont dans le sens de l'authenticité du linge. C'est-à-dire, c'est quoi l'authenticité? Ça veut dire que c'est un linge qui date du 1er siècle, qui est tissé d'une manière tout à fait particulière, propre à l'Antiquité, en tout cas dans le monde judéen, qui porte du pollen qu'on retrouve aux environs de Jérusalem, du 1er siècle aussi. Et par la suite, c'est pas tout, on ne comprend pas comment l'image s'est imprimée, comment l'image de ce supplicié qui a été crucifié, on voit les traces, les mains, les pieds, la blessure au flanc, la couronne d'épines, comment ce supplicié a-t-il pu imprimer des marques sur le linge? Et comment en est-il sorti? Parce que les savants disent, et n'importe qui pourrait le dire d'ailleurs, si vous avez un linge qui colle sur des tas de blessures sur un corps humain, en arrachant le linge, vous allez arracher des fibres. Non seulement vous allez arracher des morceaux du corps, mais vous allez arracher des fibres qui disparaissent. Or, ce n'est pas le cas. Donc, le corps est sorti d'une manière tout à fait étonnante. Et on a fait l'époque du carbone 14. À un moment donné, à la fin des années 80, on va passer le linceul au carbone 14. Et on va dater le linge du 14e siècle. Mais qu'est-ce qui se passe au 14e siècle? Le linge est exposé à la vénération publique. Donc s'imprègne de particules, de molécules et de pollen en particulier de l'époque du Moyen-Âge. Et donc il n'est pas du tout étonnant de retrouver ces particules. Alors, les recherches les plus récentes, semble-t-il, ont été faites grâce à des rayons laser. Et un savant qui s'occupe de ça, dont j'ai tout à fait oublié le nom, dit pour imprimer une image telle qu'elle apparaît sur le linceul, parce qu'on a aussi éliminé des tas d'hypothèses, ce n'est pas de la peinture, ce ne sont pas des pigments, ce ne sont pas ceci, ce n'est pas cela. Et donc, il y a seulement un rayon laser qui pourrait reproduire ce type d'image, à condition de bombarder le linge avec des millions de volts. ce qui est absolument absurde, parce que ni au Moyen-Âge, ni à Edès au 5e et 7e siècle, on était capable d'imprimer une image au rayon laser. Le rayon laser, je vous rappelle, date du 20e siècle. Donc, il y a des tas de critères maintenant qui nous mènent vers la conclusion que, effectivement, c'est un linceul qui a servi à couvrir le corps d'un crucifié au 1er siècle et qui présente exactement tous les signes de la passion de Christ décrits dans les évangiles. Alors, les esprits sceptiques diront, on n'a pas la preuve A plus B que c'est le Christ, mais comment peut-on imaginer que ce linceul ait recouvert le corps d'un homme qui ait subi exactement la passion de Christ et qui en soit sorti, je parle du linceul, de manière totalement inexplicable, sans laisser la moindre trace, puisque toutes les fibres sont encore intactes. Et donc, il s'est produit un événement de sortie du corps de ce linge qui dépasse vraiment les possibilités de la science actuelle. Donc voilà, je ne dis pas que c'est la preuve de la résurrection, mais c'est quand même très très troublant. Alors je ne sais pas pourquoi je vous parlais de ça au départ. Oui. Alors, je terminerai par un texte d'Olivier Clément. La résurrection constitue le miracle par excellence que tous les autres miracles annoncent ou manifestent. Le miracle n'abolit pas les lois de la nature. Rappelez-vous saint Augustin qui disait « Le miracle ne contredit pas la nature, mais la connaissance que nous avons de la nature. » Donc le miracle n'abolit pas les lois de la nature, écrit Olivier Clément. Il abroge le caractère clos que nous avons donné à celle-ci. Le corps du ressuscité est un corps spirituel, disait saint Paul. Non pas un, mais le corps spirituel, la chair de la terre, métamorphosée par le souffle, l'Esprit Saint, qui ne dématérialise pas, mais vivifie intégralement. La difficulté de l'Occident chrétien, poursuit-il, c'est d'avoir opposé l'esprit et la matière, et donc de ne pouvoir rendre compte du caractère pneumatique du corps du ressuscité. Le corps du ressuscité n'est pas dématérialisé, c'est-à-dire nié, mais vivifié par la vie même de Dieu, déifié par les énergies de l'esprit. C'est un corps pénétré de lumière, le corps de gloire. En lui, la chair de l'humanité, de la terre, du cosmos, est réellement devenue la chair de Dieu, le corps de Dieu. Et j'ajoute dans mon travail, le miracle, c'est que vous ayez écouté jusqu'au bout. Voilà, terminé.